Bonsoir à tous. Le choc à 7 sort moins de 24 heures après le drame dans une pizzeria. Les habitants sont dans l'incompréhension. Pourquoi cet homme a foncé dans le restaurant? Nous irons sur place. Gaz lacrymogène contre jette-pierre. La situation a été tendue cet après-midi à Bure. Les manifestants demandent la fin du projet de stockage des déchets nucléaires. C'est l'heure du bilan pour Emmanuel Macron. 100 jours après avoir été élu président, a-t-il respecté ses promesses, Mathilde Choin?
La plupart oui, mais il y a aussi de nombreux couacs.
Et puis des pèlerinages aujourd'hui dans toute la France. Et oui, on est le 15 août, jour de l'Assomption. Vous entendrez un très beau témoignage au Petit Lourdes, près de Rouen.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Aurore Jarnot.
Le drame dans la pizzeria de 7 sorts hier soir, l'état de santé des victimes, le choc des habitants dans la commune, on revient sur tout ça. Mais tout d'abord, l'enquête, le mobile terrorisme et les terroristes est totalement écarté. L'homme qui a foncé sur la pizzeria a tué une adolescente et fait 13 blessés. En garde à vue, le trentenaire tient des propos complètement incohérents. Il était drogué au moment des faits, il avait avalé des médicaments pour se suicider, dit-il. Éric de Valroger est le procureur adjoint de Meaux.
Quand on lui demande pourquoi avoir choisi cette pizzeria, il explique que c'était un lieu facile d'accès, sans protection et sans sécurité particulière. Il déclare aussi qu'il n'avait pas de contentieux particulier avec le propriétaire des lieux et qu'il ne connaissait pas les victimes qui étaient présentes. Il apparaît au cours de ces auditions un véritable délire de persécution, l'intéressé indiquant qu'il se sent suivi, que les gendarmes enquêtent sur lui, etc., etc.
Et l'homme sera présenté à un juge d'instruction demain. Concernant les victimes, sur les 5 les plus gravement blessés, une seule est toujours en urgence absolue, hein, une femme de 44 ans. Et à cette sort, comme partout ailleurs d'ailleurs, hein, quand on entend que l'homme n'avait rien contre la pizzeria, qu'il ne connaissait personne, c'est l'incompréhension. Un tel acte dans une commune de 500 habitants, en plein milieu de l'été, sur une petite terrasse, c'est invraisemblable. Sylvie Charbonnier, vous êtes devant la pizzeria ce soir. Quelle est l'ambiance sur place?
Bah écoutez, il n'y a pas grand monde. Hein. Pour l'instant, en effet, devant la pizzeria, tout le bâtiment est entièrement recouvert d'une bâche noire. Vous l'entendez peut-être, d'ailleurs, le ciel se déchaîne en ce moment à 7 sorts. Un orage et une pluie torrentielle qui ont chassé les riverains. Seule trace de leur passage et de leur compassion pour toutes les victimes, eh bien des brassées de fleurs déposées devant l'une des barrières de protection et puis quelques voitures qui passent au ralenti. Il faut dire qu'ici, tout le monde se connaît, la commune n'est pas bien grande, hein, vous le disiez, et le seul lieu de distraction, ben, c'est justement cette petite zone commerciale avec le McDo, l'Intermarché, le magasin de bricolage. Tout le monde vient ici pour faire ses courses ou pour passer une soirée dans l'un des 2-3 restaurants, comme hier soir, où il faisait beau, où la terrasse était ouverte, un lieu de plaisir, donc avant que ne s'abatte la folie meurtrière de cet homme, il ne plonge toute la ville dans la stupeur et dans l'effroi.
Merci beaucoup Sylvie Charbonnier. En direct donc de 7 sorts, une commune meurtrie. Une cellule psychologique a été mise en place. Vous avez toutes les précisions sur cette affaire sur francebleu.fr. La sécurité en Afrique au menu du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les membres évoquent notamment la création d'une force anti-djihadiste sur le continent. L'attentat perpétré dimanche soir à Ouagadougou au Burkina Faso n'est toujours pas revendiqué. Il y a 18 morts, dont un Français. Manchester maintenant, et ce bel élan de solidarité dans la ville britannique. Les familles des 22 victimes de l'attentat lors du concert d'Ariana Grande vont recevoir chacune près de 275 000 euros de l'argent récolté par le fonds d'urgence We Love Manchester. Face à face entre les anti-nucléaires et les gendarmes cet après-midi à Bure, plusieurs centaines de militants participent à une nouvelle manifestation dans la Meuse contre le projet Cigéo, un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Thomas, vous êtes sur place pour France Bleu. Alors là, le calme est revenu, mais ça a été très tendu.
Oui, le face-à-face a quand même duré 1h30. Il a suffi en fait que les manifestants croisent les forces de l'ordre. C'est arrivé une fois à Bure et une autre ici dans le village de Saudron. insultes et jets de pierre d'un côté, gaz lacrymogène et canon à eau de l'autre, et puis cette dispersion du cortège à travers champs dans un nuage de fumée, même les vaches couraient dans tous les sens. Alors ce sont les plus virulents qui sont restés affronter les forces de l'ordre. Dans le cortège, il y avait des jeunes, des plus vieux, des antinucléaires qui ne veulent pas de ce trou puant, de cette poubelle. Ce sont des expressions lues sur des pancartes. Cigéo, c'est 500 mètres sous terre, des déchets nucléaires qui vont rester là des milliers d'années. L'Andra cache les risques réels de ce projet. C'est ce que pensent tous les manifestants. Des manifestants qui rappellent d'ailleurs les réserves émises par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Une habitante également m'a dit si ce centre de stockage est construit, alors j'envisagerai sérieusement de déménager.
Merci Thomas Chenet, en direct donc de Bure dans la Meuse pour France Bleu. Et le site pourrait accueillir les premiers résidus de centrales nucléaires dans 8 ans, en 2025. Quels produits contiennent des œufs contaminés par le fipronil? Nous aurons enfin la réponse en fin de semaine. Le ministère de l'Agriculture va publier une liste avec tous les produits infectés, hein, toutes les pâtes, toutes les brioches, tous les gâteaux. 17 pays européens sont touchés par le scandale des œufs contaminés. 19h05 sur France Bleu. Encore des nuages dans le ciel aujourd'hui, parfois même de la pluie. On en a ras-le-bol de ce temps. Mais selon un prévisionniste, ça n'a rien d'exceptionnel, hein, vous l'entendrez. Dans la suite de ce journal également, un fan de la première heure d'Elvis, le King est mort il y a 40 ans, mais cette figure du rock est inoubliable. Et tout d'abord, on part auprès des pèlerins pour ce 15 août, jour de l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge selon les chrétiens. Vous êtes des milliers à être allés vous recueillir, et notamment à Criquetot sur Ouville, au nord de Rouen. Il y a là-bas une reproduction de la grotte de Lourdes. Chacun y vient pour ce qu'il veut, en fait. Laurine a 17 ans. Et écoutez sa jolie histoire avec ce lieu.
Béni sois-tu, Seigneur.
Je l'ai toujours connu, j'y allais souvent. À chaque balade, je m'arrêtais ici. Je venais pas forcément pour prier, c'était un lieu de repos. Et puis ça me fait du bien de revenir un peu aux sources, je pense. Il s'est passé quelque chose ici quand j'avais 6 ans. J'étais venue avec mon oncle. Et en fait, le truc, c'est que j'avais énormément peur de faire du vélo. Donc mon oncle aime cet endroit aussi. Donc du coup, on y avait été avec lui. Et il m'a montré comment prier pour la première fois. Donc moi, avant, je venais ici. Je ne comprenais pas vraiment la signification parce que j'étais encore une enfant. Donc il m'a montré, j'ai fait ma prière, j'ai fait tout comme lui, comme il m'a montré de faire. Donc j'ai demandé à Dieu de pouvoir savoir faire du vélo. Et quand je suis remontée, sur mon vélo, je savais en faire. C'est comme ça que j'ai commencé à croire en Dieu.
Et voilà, le petit miracle de Laurine, 17 ans. Beaucoup de fidèles sont aussi venus dans la vraie grotte à Lourdes. Ils sont 25 000 pèlerins à assister aux célébrations de la Vierge, entourés par 300 gendarmes et policiers. La France, encore une fois, mauvaise élève. Elle recule au classement de Shanghai, celui des meilleures universités mondiales. L'université Pierre et Marie Curie, par exemple, arrive à la 40e place, bien loin derrière le trio de tête Harvard, Stanford et Cambridge. 100 jours, ça fait 100 jours qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Il est à la tête de la France. Alors Mathilde Choin, est-ce que toutes les promesses ont été tenues?
Non, bien évidemment, non. Pas toutes ces promesses. Si je vous demande une mesure phare depuis le début du quinquennat, Aurore?
La moralisation de la vie publique, par exemple.
Oui, avec la réforme du Code du travail, c'est son premier grand chantier avant son élection. Il promet que le projet de loi sera mis sur la table du Conseil des ministres avant législative. Aucun parlementaire ne pourra employer un des membres de sa famille.
Alors ça, c'est plutôt réussi.
Oui, le projet de loi est examiné en un temps record. Le texte interdit bien les emplois familiaux de collaborateurs pour la famille proche.
Et le président demande à ses députés, à ses parlementaires de la majorité, d'être exemplaires.
Chaque ministre ou candidat devra avoir un casier judiciaire vierge, promet Emmanuel Macron. Alors que tout le monde attend l'annonce du gouvernement après son élection, il nous fait un peu patienter. Le chef de l'État veut faire des vérifications fiscales.
Mais il y a quand même des surprises.
Emmanuel Macron n'est à l'Élysée que depuis 10 jours, que des soupçons d'abus de biens sociaux éclaboussent l'un de ses proches, Richard Ferrand. Au lendemain des législatives, le remaniement se fait sans lui et sans François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, gênés par l'affaire des emplois présumés fictifs.
C'est le premier cafouillage.
Il y a aussi le discours de politique générale. Édouard Philippe annonce que certaines promesses comme la suppression de la taxe d'habitation ou la réforme de l'impôt sur la fortune sont repoussées à 2019. Le Premier ministre est contredit moins d'une semaine plus tard.
Mais le ton est donné, Mathilde.
Oui, il faut redresser la barre et dès cette année, baisse de 5 euros des APL, effort supplémentaire demandé aux collectivités locales, que ça plaise ou non. L'épisode le plus marquant, c'est bien cette crise inédite avec le chef d'état-major des armées.
Et dans les sondages, eh bien c'est la dégringolade.
Promesse tenue ou non, après 100 jours, c'est bien la fin de l'état de grâce.
Merci beaucoup Mathilde Chouin pour ce bilan des 100 jours du président. Emmanuel Macron d'ailleurs qui porte plainte contre un paparazzi. Le photographe a pénétré sur son lieu de vacances à Marseille. Le président le poursuit pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée. Vous avez les précisions sur francebleu.fr. Sur le front des incendies maintenant, le feu est maîtrisé en Corse du Sud à Cargiaca. 130 hectares détruits en quelques heures, deux pompiers légèrement blessés. Cet été, le Sud-Est n'est vraiment pas épargné par les incendies. Jean Mangion, le maire de Saint-Étienne-du-Grès dans les Bouches-du-Rhône, a trouvé une solution, remettre des cendriers dans les voitures neuves.
On a eu 24 départs de feu dans le mois. On a la preuve réelle que beaucoup de ces départs de feu, une grande partie, sont dus à des jets de cigarettes. Donc nous avons très vite eu l'idée de demander aux constructeurs de voitures de réintégrer des cendriers dans les voitures, comme c'était à l'époque, pour que quand vous êtes dans une voiture qui a plusieurs personnes et qu'il y en a qui fument, on n'éteigne pas les cigarettes en les jetant par les fenêtres. Au lieu de jeter la cigarette parce que personne ne voudra l'écraser ni sur la moquette ni sur la carrosserie, eh bien, au moins, il y a un cendrier pour l'écraser. Nous avons déjà écrit à plusieurs constructeurs, tous les constructeurs français. Et après, on va essayer de développer aux constructeurs hors France, enfin, allemands, etc.
Eh oui, il faut une prise de conscience. Plus d'un Français sur six reconnaît jeter ses mégots par la fenêtre de son véhicule. Et encore aujourd'hui, 4 incendies se sont déclarés en Corse. Et la France n'est pas la seule touchée par les départs de feu. Le Groenland également. Eh oui, la côte ouest est en proie aux flammes. De très gros incendies depuis 15 jours. Le mois de juillet a été extrême. Un nouveau record de chaleur a été enregistré. Chez nous, on ne peut pas en dire autant. Dans un ciel nuageux, de la pluie, des orages, c'est ce qu'on vit depuis le début de l'été. Les températures, elles font le yo-yo. On a perdu 15 degrés, par exemple, en 24 heures dans le sud-ouest. Alors forcément, il faut bien l'avouer, on se plaint beaucoup, mais il n'y a pas de quoi, nous dit Patrick Malière, prévisionniste chez Météo France à Douai, dans le Nord. Et oui, on a connu bien pire.
Il ne faut pas remonter il y a si longtemps que ça. En 2006, le mois d'août avait connu 28 jours de pluie, et c'est certainement le mois d'août 2006 qui est le plus frais de ces 20 ou 30 dernières années. Ça n'a rien d'exceptionnel dans la région. Météorologiquement, on l'explique simplement parce qu'on est sur un climat tempéré. Là, par exemple, si je prends le cumul des pluies depuis le début du mois sur la région lilloise, ça donne 50 mm. On est en dessous même des moyennes du mois d'août. Et même si ce mois d'août 2017 sera certainement le mois d'août le plus frais, hein, un des plus frais, en tout cas de ces 20 dernières années, mais bien l'été n'est pas complètement terminé sur la région. Dès dimanche, tout va rentrer dans l'ordre, et puis jusqu'à la fin de ce mois d'août, on peut déjà vous annoncer un temps beaucoup plus agréable, plus ensoleillé, et les températures seront cette fois aux normes de saison, autour de 20-22 degrés en bord de mer, 25 à 26 degrés et à l'ombre dans les terres. Donc les Aoussiens, c'est pas terminé l'été, vous allez encore en profiter.
Voilà, le soleil qui revient à la fin du mois. Ça va vous faire plaisir à vous tous qui rentrez de vacances. On pense aller quand même aux chanceux qui sont en congé jusqu'à la rentrée. Allez, un peu de musique pour nous redonner le sourire. Vous l'avez reconnu, Elvis The King. On célèbre demain l'anniversaire de sa mort. Il a succombé à une crise cardiaque il y a 40 ans. Mais depuis, il a toujours autant de fans. Yvon, par exemple, un retraité d'Auxerre, guitariste du groupe Les Chaussettes Sauvages. Il était aux États-Unis quand il a entendu ça.
Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack.
À San Francisco, en 77, un matin, je prends le bus et j'arrive dans la rue principale, grande avenue qui coupe San Francisco en deux. Le bus s'arrête devant un kiosque à journaux et tous les journaux avec des lettres de 5 cm de haut. Elvis is dead. Elvis est mort.
His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon.
Je suis sorti du bus bouche bée. Ah, Elvis est mort. Et donc, c'était un événement national énorme. énorme. Elvis, c'est au-delà d'une vedette nationale, c'est une légende. Et même aujourd'hui, il a une superbe voix, il sait très bien s'en servir. Actuellement, j'entends des chansons et je me dis, qu'est-ce qu'il chantait bien ?
Et si vous aussi vous aimez Elvis, vous retrouvez toutes ses chansons sur francebleu.fr. Sachez que des centaines de fans viennent se recueillir tous les jours sur la tombe du King dans sa maison de Memphis, 40 ans après sa mort, hein, comme quoi il a vraiment marqué l'histoire de la musique. 19h15 sur France Bleu.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, téléchargez et installez gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone.